quand je pensais à ce que ce livre pourrait m'amener, je me suis dit, tiens, sûrement des belles discussions avec mon éditeur. Parce que c'est lui qui a choisi le texte, donc forcément, on devrait avoir des discussions sur tel ou tel choix, l'intention derrière une phrase, des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être, s'il se rend jusque-là, des beaux échanges avec les lecteurs ou les lectrices. J'ai plus honte de le dire, mais jamais j'ai pensé aux libraires. Jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi les gens qui m'ont mis à plus d'une reprise les larmes aux yeux, il y a souvent eu des libraires. Et voilà, je pense que quand j'écrirai le deuxième roman, je penserai un peu plus à eux.
Bienvenue à la librairie Cochot qui met en valeur le travail des libraires. Voici votre animateur, René Cochot.
Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot, bien heureux de vous savoir à l'écoute de cette émission consacrée aux libraires et aux librairies indépendantes. Voici le menu de l'émission de cette semaine. Une entrevue avec Mélissa Durand, libraire jeunesse à la librairie Monet à Montréal. Un entretien avec l'auteur Sylvain Turner concernant son roman « Maudit refuge » paru aux éditions Main Libre. L'auteur Alain Beaulieu rend hommage aux libraires. Nos archives présentent Bernard Pivot, libraire d'un jour. David Marchand de la librairie de la Coop de l'Université de Sherbrooke nous parle des nouveautés à surveiller. Nous découvrons en France une librairie qui accueille des chats hébergés dans des refuges. Léonie Boudreau de la librairie Les Deux Sœurs à Sherbrooke présente l'album Jeunesse, un gâteau à quoi? Et Catherine Ostiguier des éditions du Boréal présente le nouveau livre de Brigitte Vaillancourt intitulé La séparation des biens. Bienvenue à la librairie Cochot.
Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre. Ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Robinson ou Gulliver ou Cosette et Javert. Au fin fond de la Mancha, retrouver Sancho Panza dans la ville de Padova, le libertin Casanova, savourer Frédéric Dard, le breton Alphonse Boudard, ou les aventures friponnes de Restif de la Bretonne. Rendez visite à Podane, à Gil Blas de Santillane, devenez les commensaux de Voltaire et de Rousseau. Et si vous trouvez amer les raisins de la colère, allez faire des cabrioles au pays de Lewis Carroll. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Albert Cohen ou Balzac, Machiavel ou Pierre Dac. Délectez-vous en passant d'un joli conte persan, ou savourez quelques vers de Verlaine ou de Prévert. Une pensée de la Haute-Ce, apitoyez-vous sur ce pauvre César Birotteau qui a croqué tout son gâteau. Bien au chaud dans votre dodo, emportez Georges Amado ou ce Julio Cortazar qui a des histoires si bizarres. Il sera minuit sonné, vous aurez toujours le nez dans un roman de Sandra ou le journal de Jules Renard. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Scheherazade ou Lucrèce au jardin des caresses. Après Dumas et Kessel, découvrez Raymond Roussel. Amenez le divin marquis chez Madame de Bovary. Vous resterez étourdi du voyage au bout de la nuit. Rabolio vous séduira comme Zazie ou Jacques Vintras. Aimez-vous les esprits forts, dévorez messieurs Champfort, La Rochefoucauld, Shakespeare, n'ont laissé que de bons souvenirs pour de multiples raisons. Si un jour je vais en prison, je veux bien me passer de croissant, mais ne me laissez jamais sans. Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre, ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre tous ceux qui ont le chou farci, à qui je dis merci.
Nous poursuivons à la librairie Cochot notre coup d'œil sur les différentes librairies au Québec, comme au Canada et même ailleurs à l'international. Et là, on va s'intéresser à une librairie qui a pignon sur rue depuis déjà 40 ans, bien établie à Montréal, la librairie Monet. Et pour en parler, j'ai Mélissa Durand en ligne. Bonjour, Mélissa Durand.
Bonjour René, ça va bien?
Ça va très bien, Mélissa. Merci donc d'avoir accepté de participer à cette émission qui, rappelons-le, vise à souligner, mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. Alors parlons évidemment de la librairie Monet. Comme je le mentionnais, déjà 40 ans, donc c'est une librairie bien établie. Situez-nous sur le plan géographique où la librairie se trouve.
Donc, nous, on est situé pas très loin du quartier Hansic, dans Nouveau-Bordeaux, que je crois a été rebaptisé quartier-ville. Donc, on est maintenant pas très loin d'une station du REM, on est bien content. Donc, dans le nord de Montréal.
Bon. Comment la librairie Monet se distingue à la ville de Montréal?
Bien, à plusieurs égards, la librairie Monet a une très grande expertise en jeunesse ainsi qu'en bande dessinée. Donc, c'est une librairie qui est quand même très spécialisée. On a bien sûr une division générale pour les adultes. L'autre grande particularité, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup travailler là, c'est qu'on est quand même assez avant-gardiste. Donc, on est toujours à l'avant-plan, essayer de faire des choses assez nouvelles. On avait notamment créé des capsules d'incontournables pour aller aider les gens qui avaient besoin de libraires jeunesse BD adultes, mais dans le reste de la francophonie canadienne. On avait également créé un programme pour donner des formations aux professeurs en lien avec la littérature jeunesse, parce qu'on s'est rendu compte que le médium favorise à bien des égards l'intégration de certains acquis scolaires. On a aussi une plateforme qui est en plein développement pour créer des fiches pédagogiques. Donc, on essaie toujours d'être à l'avant-garde, de pouvoir aider notre clientèle. On est versé beaucoup pour les écoles. Et sur la librairie en elle-même, donc à l'intérieur, sur le plancher qu'on appelle, on a une biblio idéale, on a développé même une première tablette pour les livres adaptés à la dyslexie, et on a aussi créé différents petits groupes comme celui pour les classes accueil. Donc, on essaie vraiment de pouvoir aider tous les types de clientèle qui peuvent parfois être laissés pour compte.
Bon, c'est assez impressionnant tout ce que vous avez fait. Vous êtes donc à la librairie Monet depuis 6 ans, libraire jeunesse. Je pense que la lecture chez les jeunes et les enjeux liés à la lecture sont victimes de certains mythes tenaces. J'aimerais qu'on aborde cela.
Oui, certainement. Un des mythes que je trouve les plus terrifiants encore aujourd'hui, c'est de penser que les garçons ne lisent pas. Mm-hmm. Il y a encore des gens qui le croient et aux personnes qui le croient, ben, je vous garantis que non. C'est vraiment un énorme mensonge. Ceci dit, oui, il y a des reculs en termes de lecture, mais il faut comprendre qu'on fait face à des enjeux à la fois structurels, de neurodiversité. En fait, le principal problème que je vois de mon côté, c'est qu'au lieu de valoriser la lecture, on est beaucoup encore dans un cadre très serré où est-ce qu'il faut rester dans certains genres. Et un des mythes, notamment, que je peux glisser ici, c'est l'idée que la bande dessinée et les mangas, qui sont des bandes dessinées aussi, soient moins importants, moins intéressants que les romans. Je peux vous garantir qu'on a déjà vu des romans qui sont absolument épouvantables en termes de qualité de français. Donc, en fait, il y a des mythes persistants sur les formats. Il y a des mythes persistants également sur les genres. On pense encore énormément que les classiques sont plus importants que les livres contemporains. Donc, on fait face en jeunesse, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mythes. Je pourrais continuer encore très longtemps.
Est-ce que ces mythes sont le lot des parents ou chez les professeurs aussi, il y a du travail à faire?
Ben écoutez, l'humain étant l'humain, la réponse, c'est un peu tout le monde.
ouais,
parce que c'est pas vraiment un groupe en particulier. Je pense pas non plus que les gens se sont malveillants à cet égard-là. C'est vraiment plus des mythes qui viennent de notre histoire, qui viennent de nos impressions, qui viennent aussi de certains stéréotypes qui sont entretenus en littérature jeunesse. Je veux dire, on a encore beaucoup cette idée que les filles sont de telle façon, les garçons sont de telle façon. Donc, il y a persistance de mythes parce que notre culture, elle est encore teintée de mythes. Donc, c'est pas quelque chose que je veux accuser qui que ce soit. C'est vraiment juste de prendre conscience qu'on a encore des biais cognitifs à cet égard. Il faut être alerte à ces choses-là parce que malheureusement, ces mythes-là peuvent décourager les jeunes à lire. Donc, c'est vraiment très important qu'on ait conscience de ça. Et les libraires jeunesse, généralement, on se met quand même un point d'honneur à penser à ces choses-là, justement, pour être le plus démocratique possible. Donc, j'irais dans ce sens-là.
Bon, Mélissa Durand, qu'est-ce qui vous a amené à devenir libraire spécialisée jeunesse?
Oh mon Dieu, c'est un accident de parcours. Donc, non, moi, je viens pas de l'univers de la littérature, point du tout. Donc, moi, je viens de l'univers de la psychologie et du service social. C'était là que je devais aller a priori. Donc, durant ce bout de ma vie où j'ai dû rembourser mes dettes étudiantes, j'ai été libraire dans une librairie. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui avait quand même, c'est quelque chose que j'ai réalisé que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y a des enjeux sociaux qui sont à l'intérieur de la littérature. Donc, c'est venu rejoindre ma fibre d'intervenante et j'ai voulu faire ce pont-là également avec la psychologie. Donc, je me suis approprié le métier avec les cordes un peu atypiques que j'avais. Mais c'est pas quelque chose que je devais faire à l'origine, mais c'est quelque chose que j'ai découvert et qui me passionne aujourd'hui.
Bon, Mélissa Durand, parlons maintenant de cet apport de la librairie auprès des professeurs, parce que j'ai cru comprendre qu'au fil des ans, là, vous avez établi des liens proches avec ces professeurs qui cherchent là, ces livres qui vont permettre à leurs élèves d'apprendre à lire, évidemment, mais avec souci pédagogique, non?
Bien, un des aspects qui peut être intéressant, c'est que la littérature, c'est un reflet de la réalité, qu'on le veuille ou non. J'entends souvent le contraire. La réalité, c'est pas la fiction. En fait, oui, on s'inspire quand même énormément de choses qu'on ne peut pas créer, c'est-à-dire les émotions, les comportements, le vivre ensemble. Donc, juste dans la sphère, ce qu'on appelle la nouvelle sphère CCQ, le cours de culture citoyenneté québécoise, on peut aller chercher un apport là parce qu'on a des mises en situation, parce qu'on a des personnages qui vivent des choses auxquelles nous, on peut se relayer ensuite. Dans l'aspect peut-être plus pédagogique, on peut évidemment aller dans les cercles de lecture, on peut aller chercher aussi tout le volet français, qu'est-ce qu'on peut faire avec les figures de style, qu'est-ce qu'on peut faire avec les structures narratives, on peut faire des pistes d'écriture. Donc, on essaie de s'approprier le langage des professeurs pour les aider à trouver des éléments dans la littérature. C'est sûr qu'on n'est pas professeur, mais on essaie d'aller voir comment on peut les aiguiller, autant pour le français, autant pour justement la dimension psychologique, les enjeux sociaux. Et même, je vous dirais, un détail qui est quand même très important, surtout pour nous à la librairie, parce qu'on a une clientèle qui est beaucoup aussi là-dedans, on a beaucoup d'immigration. Mm-hmm. Donc, on se fait un malin plaisir à chercher tous les albums, les romans, les BD, qui peuvent avoir des personnages qui font partie de la diversité québécoise. On se rappelle que ce sont nos citoyens, justement, donc ils sont très importants. Essayer, justement, autant du côté de l'immigration de les faire représenter, mais également du côté, appelons ça, des Québécois qui sont là depuis longtemps, de tenir compte de cette diversité-là. Donc, on revient un peu au vivre ensemble, finalement, mais c'est un des volets qui est très, très important. Ce à quoi on est exposé, on finit par l'intégrer. Et au final, plus on est associé à toutes ces diversités, on développe une tolérance, on développe un langage plus empathique en vieillissant. Donc, la fameuse phrase qui dit « un enfant qui lit est un adulte qui pense », c'est pas mal ce qu'on a ici.
Oui, c'est ça. Les albums jeunesse permettent de développer la pensée critique, l'analyse narrative, décoder les émotions, tout ça, là. Hein?
Tout à fait. Pensée critique est plus que jamais importante. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le livre permet d'aller dans le qualitatif davantage que le quantitatif. Donc, ça permet d'exercer justement une réflexion, une analyse, comme vous dites, c'est exactement ça. Chaque enfant n'a pas forcément les mêmes angles de traitement ni la même façon de voir le monde. Et quand tout ça se mélange au sein d'une classe, ça peut être que gagnant pour tout le monde au final. Donc, c'est pas d'aller chercher les vraies réponses, c'est d'aller chercher une diversité de réponses.
Bon, dernière question, Mélissa Durand, c'est plus une question d'ordre politique. On sait que Québec a annoncé la fusion des budgets alloués au sport et à l'achat de livres. J'imagine que comme libraire jeunesse, vous ne voyez pas ça de bon œil.
Non, en effet, on est plusieurs sur la ligne de front en ce moment à dénoncer cette décision qui pouvait sembler être une bonne décision sur le début, mais en fait, la réalité, c'est que sans un budget octroyé directement pour l'achat des livres, on craint que les écoles se découragent et prennent plutôt le budget pour d'autres projets. Les livres sont irremplaçables. Il n'y a pas d'autre façon d'apprendre la lecture que via les livres et la qualité des livres également. Donc là, le problème auquel on se retrouve, c'est que les librairies qui dépendent quand même des collectivités se retrouvent à devoir de gérer des budgets moindres, voire plus de budget du tout. Mais au-delà du simple fait des librairies, il y a également toute la préoccupation sur l'accessibilité à la lecture, alors qu'on sait que les défis en lecture sont déjà considérables. Donc, j'invite les citoyens qui s'y intéressent justement à aller lire sur le sujet. C'est quelque chose qui nous concerne tous parce qu'au final, des jeunes qui sont capables de bien lire, c'est nos citoyens de demain. il faut prendre ça bien au sérieux.
Ben voilà, on va se laisser là-dessus. Mélissa Durand, je rappelle que vous êtes libraire à la librairie Monet à Montréal. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Ben merci à vous, monsieur. Bonne journée.
Les auteurs se livrent à vous à la librairie Cochot.
Bonjour, ici Alain Beaulieu, écrivain. Écoutez, moi, c'est une relation qui date de plusieurs années avec les libraires. J'ai des souvenirs de jeunesse. Moi, j'habite Québec, j'habite la ville de Québec. Et adolescent, j'allais à l'école au séminaire de Québec, là, qui est dans le Vieux-Québec, et il y avait deux librairies tout près. Il y avait la librairie française dans la cour de la fabrique et il y avait la librairie Garneau, qui était aussi dans le même secteur. Et j'ai un souvenir très prégnant d'un libraire qui s'appelle Jean Dumont, qui est encore libraire aujourd'hui chez Pantoute en bas dans Saint-Roch. Mais à l'époque, écoutez, moi j'étais adolescent, donc ça fait quelques années. Et je me souviens de M. Dumont qui a été mon premier conseiller, si on veut, en termes de littérature, qui m'a fait découvrir des auteurs français, mais aussi des auteurs américains. Donc, c'est celui qui m'orientait d'une certaine manière vers ce qui se faisait de plus intéressant en littérature. Et avec la librairie Garneau, j'ai aussi, librairie Garneau qui n'existe plus maintenant, mais à l'époque, c'était une des grandes librairies à Québec. Et j'ai un souvenir aussi très personnel, parce que chaque 2 janvier, la librairie Garneau faisait son inventaire. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, etc. Alors, tout se faisait à la main. Alors, on passait la journée, on arrivait là à 7 heures le matin, puis on sortait sur l'heure du souper, puis on passait la journée à faire l'inventaire des livres à la librairie Garneau. Alors, un peu plus tard, bon, voilà, moi, j'ai commencé à écrire tout ça, puis évidemment, je continuais là, à aller en librairie. Puis il y a une libraire dont j'ai oublié le nom de famille, qui s'appelait Sarah, qui était libraire à la bouquinerie de Cartier, sur la rue Cartier à Québec, qui a été par la suite chez Zone à l'Université Laval. Je vous dirais que ça a été une personne très importante dans mon développement comme écrivain, dans le fait que elle m'a mis entre les mains des textes que j'aurais jamais lus, Volodine, ou tu sais, des auteurs, dans le fond, qui n'étaient pas nécessairement des auteurs très, très connus, mais qui ont vraiment alimenté à la fois comme lecteur, qui m'ont alimenté comme lecteur, mais aussi comme auteur, c'est-à-dire de me faire découvrir des choses, parce qu'un libraire, dans le fond, c'est quelqu'un qui va savoir ce que tu aimes, mais qui va être aussi, qui va pouvoir t'amener à découvrir, je dirais, des auteurs qu'elle va soupçonner que tu vas aimer. Alors voilà. Sinon, vous dire que les jeunes libraires d'aujourd'hui, à Québec, il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont passés par nos programmes là, de création littéraire ou de littérature à l'Université Laval. Alors je les retrouve dans les librairies. Puis je vous dirais qu'évidemment, on est admiratif, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un métier de passionné libraire, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, là, hein? c'est pas un métier qui est très, très payant, libraire, et il passe beaucoup de temps à lire des livres, s'ils veulent bien conseiller les lecteurs, il faut qu'ils lisent les livres. Alors, c'est un métier de passionné, c'est ce que j'aime, évidemment, quand j'entre dans une librairie, c'est de retrouver des gens qui sont passionnés par la littérature.
Et Alain Beaulieu, vous avez eu, à titre d'auteur, évidemment, l'occasion de faire des lancements de livres, des séances de dédicaces. Avez-vous en souvenir, en tête, un beau souvenir?
Oui, ben oui, parce que en particulier à Québec, moi, j'ai fait beaucoup de lancements à Québec chez Pantoute. Pantoute, qui est maintenant une coopérative, c'est-à-dire que c'est les employés qui gèrent maintenant la librairie, les deux librairies, ils en ont deux, une dans le Vieux-Québec puis une dans Saint-Roch. Et à chaque fois, j'ai été accueilli là, comme chaque auteur désire être accueilli, c'est-à-dire avec bienveillance, puis c'est bien organisé, puis ça. Puis surtout avec, on sent, bien, j'ai fait la même chose, je vous dirais, chez La Liberté récemment, c'est-à-dire qu'on sent que ce sont tous des gens qui sont là pour une même cause, c'est-à-dire celle de la littérature, puis de faire en sorte que le livre demeure présent dans la vie des gens.
Bien, merci beaucoup, Alain Beaulieu.
Oui, c'est un plaisir. Merci, René.
Qui ne connaît pas l'animateur Bernard Pivot de la célèbre émission Apostrophe? Écoutons une vidéo d'archives disponible dans les médias sociaux qui met en vedette Bernard Pivot à une émission diffusée en octobre 1985. Bernard Pivot joue alors le rôle d'un libraire et il est filmé par les caméras de Jacques Roulant dans une librairie sans que les clients ne sachent qu'ils sont filmés. Et il faut l'avouer, les échanges entre la clientèle et Bernard Pivot, entre guillemets libraire, ont de quoi faire sourire. Et c'est produit par Antenne 2.
Alors je me disais un peu naïvement que eh bien, beaucoup de gens allaient peut-être être indignés, en tout cas étonnés, certainement étonnés. Eh bien vous allez voir que c'est moi qui vais d'étonnement en étonnement.
Je ne savais pas que vous travailliez ici.
Ben oui, pourquoi
il y a... Ah bon, c'est très bien.
Ben, vous savez...
Première fois que je vois travailler ici.
On lit les livres, je les vends, c'est un peu la même chose. Hein. L'amant de Duras, vous l'avez lu?
Vous l'avez pas lu?
Oh, écoutez, vous êtes la dernière française à ne pas l'avoir lu. Vous voulez que je vous le signe?
Oui.
Je ne suis pas l'auteur. Hein.
Non, je sais bien. Hein? Je sais bien, mais j'aimerais bien avoir votre signature.
Ah bon?
Vous travaillez ici?
Bah oui. Ben oui, parce que je... Au lieu de lire les livres à la maison, j'ai le temps de les lire ici, dans une boutique. Alors je les lis et je les vends et je les lis. Ça rend service à la librairie. Ça vous choque pas?
Pardon,
hein?
Quelqu'un qui s'intéresse aux livres qu'on trouve dans une librairie, ça paraît même judicieux, non?
Ben oui. C'est vrai que...
Vous auriez vu dans une boulangerie, j'aurais dit bon...
Oui, c'est vrai, ça aurait surpris, ou une pharmacie.
Oui, par exemple, bon, les temps sont durs, mais...
Mais là, c'est normal, les impôts, hein. Bon, pour payer les impôts, je me fais quelques heures supplémentaires dans la librairie Ami. Puis entre nous, c'est au noir, hein, alors... Bon. Ben voilà, alors vous voyez, non seulement j'ai trouvé personne... Aucun client indigné de me voir vendre des livres, mais j'ai même trouvé personne étonné. Absolument personne ne s'est étonné que je puisse vendre des livres, absolument. Ça leur a paru normal, c'est pas paru tout à fait naturel que je vende des livres. Alors je sais pas, je vais peut-être ouvrir une librairie, j'en sais rien.
La poésie n'est pas que belle, elle est rebelle. Il y a des centaines de silences qui assassinent pendant des siècles et des siècles. Nos oreilles sont là pour nous tenir éveillés. Il y a des réveils matins qui sonnent comme des clairons, il y en a peu qui chantent des berceuses.
Bonjour, ici Gabrielle Richer de la librairie de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Que pensez-vous de la rentrée littéraire actuelle? Un titre à ne pas manquer. J'ai vraiment hâte de voir, j'ai vu beaucoup de nouveautés. Celui que j'ai le plus hâte, c'est le palais de François-Henri Désérable. En fait, il s'agit d'une histoire semblable au contexte du livre du classique du parfum de Patrick Souskind qui se déroule dans l'univers des sommeliers. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette nouveauté-là qui va sortir à la mi-septembre prochain.
Daniel Pennac, lui-même ancien libraire à Soissons, a consacré tout un livre au plaisir de lire. Voici ce qu'il écrit sur la discrétion du lecteur. « Ce que nous lisons, nous le taisons. Le plaisir du livre lu, nous le gardons le plus souvent au secret de notre jalousie. Soit parce que nous n'y voyons pas matière à discours, soit parce qu'avant d'en pouvoir dire un mot, il nous faut laisser le temps faire son délicieux travail de distillation. »
Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter. L'écriture. On s'est pointé à 20 en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre de liqueur. Depuis, quand on y cause, on sait que c'est en prose, que c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque.
Sur la librairie comme lieu magique. Nicolas de Le Salle écrit avec une sincérité désarmante. Jusque-là, je n'étais jamais entré dans une librairie. J'avais peur des librairies comme j'avais peur des livres. À mes yeux, les librairies étaient des temples austères, les libraires des moines érudits et effrayants. Il était évident que les libraires avaient lu absolument tous les livres qu'ils vendaient, et il m'arrivait de scruter discrètement leur front, que je jugeais toujours bombé en imaginant combien d'histoires dansaient là-dessous.
Poète, réveille-nous. Poète, raconte-nous. Parle-nous des empires, des pays à construire. Poète, éveille-nous. Poète, à tes chevaux. Poète, à tes bateaux. Brûle-nous des tempêtes, invente des conquêtes. Poète, fais-nous héros. Poète, dis-nous la vie. Poète, qu'elle est jolie. Fais sortir des guitares, des nouveaux chants barbares. Poète, tu es la vie. Poète, à tes fléaux. Poète, à tes couteaux. Rallume les batailles, enflamme nos ripailles. Poète, qu'on se croit beau. Poète, vis ton destin. Poète, deviens Merlin. Vole comme un rapace au-devant de l'espace. Éclaire nos matins. Poète, revis nos dieux. Poète, ouvre nos yeux. Redis-nous nos légendes. Fais parler nos offrandes. Fais-nous devenir Dieu. Car il ne manque plus que toi pour que se gagne le combat. Dès que tu nous auras rejoints, la victoire sera pour demain. Il est temps de choisir ton camp.
Un autre chapitre de votre émission, La librairie Cochot, dans un instant. Vous écoutez l'émission littéraire La librairie Cochot.
Sérieux, quand on a 17 ans, un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin. Des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branches piquées d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se se laisse griser la sève du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres, un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et de mouvements vifs sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont. Vous êtes mauvais goût, puis la dorée un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
L'auteur Sylvain Turner signe un nouveau roman aux éditions Mains libres. La transformation d'une église en refuge pour personnes en situation d'itinérance est au cœur de ce roman policier intitulé « Maudit refuge ». Cette transformation inquiète la population d'un quartier montréalais. Certains citoyens voient d'un bon œil cette initiative, mais plusieurs autres craignent que ce refuge n'attire que des problèmes. Les incivilités et les actes criminels recensés dans les jours suivant l'ouverture du refuge n'ont rien pour diminuer ce sentiment. Ce roman, Maudit refuge, présente la problématique de l'itinérance sous plusieurs angles et nous expose le fait que rien n'est simple, bien au contraire. Voici une partie de l'entrevue accordée par Sylvain Turner pour la librairie Cochot. Sylvain Turner, bonjour.
Bonjour, René.
Avant de parler de ce nouveau roman, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un petit clin d'œil à votre roman précédent, En mémoire des filles.
Oui, et j'ai élaboré la trame narrative de Maudit refuge, ce deuxième polar, un peu comme je l'avais fait pour en mémoire des filles, en visant à offrir au lecteur et à la lectrice un divertissement digne de mention. Et j'ai deux personnages dans Mémoire des filles qui ont insisté pour reprendre du service.
Oui,
soit le technicien en gestion parasitaire, Mathieu Valois, et la sergente détective, Sandy Clark. Alors, j'ai accepté de leur laisser libre cours et de prendre les choses en main, entre autres, dans ce nouveau roman.
Parlons de l'intrigue de Maudit refuge. En fait, ça tourne autour d'un mystérieux personnage qui se donne comme mission de forcer la fermeture du refuge Sainte-Madeleine ou provoquer du moins son déménagement. Et le moyen utilisé donne la chair de poule, faire circuler des substances illicites plus nocives que le fentanyl qui cause la mort des consommateurs en quelques minutes.
C'est quelque chose qui pourrait se produire. On souhaite que la réalité ne dépasse pas la fiction dans le cas de Maudit refuge, mais on n'est pas loin de ça. Hein. Les drogues qui circulent, les drogues de synthèse qui circulent présentement, ça, c'est des drogues qui tuent. Donc, je suis pas allé chercher ça très, très loin.
La presse le nomme l'assassin du refuge. Alors, l'affaire est confiée aux enquêteurs Cindy Clark et Pierre Prophète. Et là, c'est tout le talent d'auteur qui ressort parce que les suspects sont très nombreux, tout comme les fausses pistes. Donc, il fallait établir un plan d'attaque pour tromper le lecteur et l'amener sur des fausses pistes. Ça, c'est là que ça vous fait plaisir.
Bien, c'est le jeu aussi. Hein? Mm-hmm. C'est un peu le contrat qu'on a quand on écrit un polar ou quand on lit un polar, c'est-à-dire, le lecteur va chercher l'assassin, l'auteur va tenter de tromper le lecteur. C'est une danse qu'on fait ensemble. Et si je me fie aux commentaires que j'ai jusqu'à présent, c'est réussi dans le cas de Maudit refuge.
Absolument. Il y a plusieurs thèmes abordés tout au long de l'enquête dans ce roman Maudit refuge, Sylvain Turner. L'ingérence d'un gang de rue, un curé pédophile, la pression exercée par les autorités municipales, ce promoteur immobilier qui ne voit pas d'un bon œil la transformation de cette église. N'aviez pas peur de vous perdre en abordant autant de thèmes?
Non, parce qu'ils sont tous liés à l'intrigue d'une façon étroite. C'est pas des morceaux à coller sur un casse-tête, c'est vraiment des pièces du casse-tête.
Cindy Clark et Pierre Prophète vont faire appel à un blogueur. Lucien Luneau, très au fait de ce qui se passe dans le quartier. Pourquoi avoir choisi cette avenue?
Parce que je trouvais important de donner, avoir une parole plus objective en fait. Et les textes de Luneau, son blog, permettaient d'arriver à ça. Et le personnage a pris de l'importance au fil d'écriture.
Ouais.
Tellement qu'il est devenu un personnage central du roman.
Et même suspect.
Oui, effectivement. Et pour la petite histoire, j'ai utilisé ce nom-là, ce personnage-là, Lucien Luneau, pour rendre hommage à quelqu'un qui a été important pour moi dans mon parcours. C'est le journaliste, le défunt journaliste Justin Luneau, qui couvrait les Canadiens pour le Journal de Montréal dans les années 80. Et qui est un des premiers à m'avoir donné le goût de faire carrière dans l'écriture. Et peu après son décès, je suis devenu journaliste. J'ai fait mes premières armes au journal de Rosemont à l'époque. Alors, c'est une façon de lui faire un clin d'œil.
c'est très gentil de votre part. Bon, en écrivant votre roman, avec évidemment cette trame policière en arrière-scène. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça ressemblait plus à un reportage, dans le sens où tous les angles d'une situation problématique étaient abordés. Est-ce que dans votre esprit, la façon dont vous avez écrit ce roman s'est transformée au fur et à mesure de l'écriture?
Je l'ai travaillé un peu comme un journaliste aurait travaillé un grand reportage, d'une certaine façon, en intégrant des éléments de l'actualité, des faits qui sont survenus et qui ont marqué l'actualité. Et je me suis aussi amusé à faire référence à plusieurs œuvres et personnages de la culture populaire, dont le film Joker, réalisé par Todd Phillips et interprété par Joaquin Phoenix. D'ailleurs, les gens qui ont aimé cette version de 2019 du Joker apprécieront probablement l'univers de Maudit Refuge. On est un peu dans cet univers un peu sombre, un peu fascinant, plutôt fascinant, je dirais, qui a fait la marque d'un film comme Joker.
Moi, j'ai particulièrement aimé cette version du Joker et j'ai également apprécié la lecture donc de ce nouveau roman policier publié aux éditions Main Libre, Sylvain Turner, qui a pour titre Maudit Refuge. Merci beaucoup pour cette entrevue et puis on a déjà hâte de lire le prochain roman policier.
Un grand merci et salutations à vos auditeurs.
Merci, au revoir.
Bonjour, ici David Marchand de la librairie de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Que pensez-vous de la rentrée littéraire actuelle? Un titre à ne pas manquer, le livre Remercions de Michel Quecourge, qui est vraiment extrêmement intéressant. Je pense que ce livre-là, c'est un ovni dans l'histoire de l'édition québécoise. Puis pour un livre qui est auto-édité, c'est des ventes qui sont absolument records, puis que c'est sans précédent à ma connaissance. Puis c'est vraiment un livre extrêmement intéressant, très, très différent, qui part dans tous les sens, sous le même esprit que la page qu'il gère sur Facebook. Mais je conseille vraiment à tout le monde qui ont la chance de mettre la main sur ce livre-là, d'y jeter au moins un coup d'œil pour voir si ça leur parle, parce que c'est très en phase aussi avec ce qui se passe au niveau social. Donc, super beau livre.
Découvrons une librairie généraliste qui accueille des chats hébergés dans des refuges grâce à une vidéo produite par BFM TV à Aix-en-Provence qu'on retrouve dans les médias sociaux.
Un lieu extrêmement serein. Alors en fait, mon chapitre, c'est la première librairie de France avec des chats. Le lecteur et le chat, ça va vraiment très très bien ensemble, ça apporte un lieu extrêmement serein. Alors en fait, mon chapitre, c'est la première librairie de France avec des chats. J'ai 8 chats qui sont devenus libraires, que j'ai adoptés dans des refuges, et donc c'est une librairie généraliste où on trouve de tout. J'ai vraiment fait la tournée de tous les refuges de la région, les petites associations que j'avais envie de mettre en avant. On a le record, le triste record en France des abandons. Donc c'était très très important pour moi que ce soit des chats de refuge, des chats qui ont une nouvelle vie. Et maintenant, c'est vrai qu'ils sont adorés, les gens font des kilomètres pour venir les voir. Alors c'est assez génial en fait, l'entente de ces 8 chats. C'est vraiment devenu une famille et ils ont des comportements qui sont vraiment très drôles. Je vous parlais de Marcel qui se pend au lustre toute la journée. Et c'est devenu un amusement sur les réseaux sociaux parce que j'en joue beaucoup et c'est très très drôle. On a la petite Titou avec son strabisme qui est tombée totalement folle amoureuse de notre Marcel pendu au lustre. On a également Sherlock qui monte sur les épaules des clients, voilà, quand il a envie, il monte sur les épaules et il se fait balader dans la librairie. Féfé qui a été abandonnée 3 fois, à chaque fois ramenée en refuge, elle est plus tout le temps en train de dormir dans son petit coin, mais elle va tout le temps sur les genoux des gens pour aller chercher des câlins. Voilà, chaque chat a trouvé sa place et son rôle et c'est assez génial. En fait, j'ai envie de faire ronronner d'autres librairies. Le principe de mon chapitre m'a complètement dépassée dans le sens où on a des gens qui viennent de très loin, parfois du Mexique, de Nouvelle-Calédonie, parce que je vous dis sur les réseaux sociaux, mes chats se sont vraiment bien bien baladés et ont traversé les frontières. Cette fois, j'ai un mari qui a fait 20 heures de route pour faire plaisir à sa femme, donc c'est assez rigolo. Et voilà, c'est de permettre à d'autres personnes d'en profiter parce que ça crée un bien-être qui est incroyable. Encore une fois, le côté très apaisant des chats le côté très apaisant également d'un moment de lecture, bien, les deux réunis, ça crée un paradis. Et pourquoi ne pas faire d'autres paradis ailleurs, d'autant qu'on me le demande énormément. Le mieux, c'est d'être libraire. Évidemment, il faut aimer les chats. Mais oui, j'ai reçu beaucoup de candidatures jusqu'en Argentine. J'ai reçu une candidature en Argentine, en Algérie, en Espagne, en Belgique, voilà, à Copenhague. Donc maintenant, à moi de faire le tri parce que je préfère en avoir moins, mais vraiment sur le modèle d'Aix-en-Provence où les chats sont bien. Toutes les associations sont unanimes et pour moi, c'était vraiment important. Je sais que le commerce de la librairie est quand même assez fragile parfois. Certaines librairies se demandent comment elles vont pouvoir perdurer, comment elles vont pouvoir s'en sortir. Et voilà, nous, on a montré que le modèle Mon Chapitre marchait très bien. En 3 ans, on a vraiment prouvé que ça fonctionnait. Et du coup, pourquoi pas des librairies classiques généralistes qui se mettent à ronronner aussi et des librairies qui n'ont pas un chat qui... Voilà, on aurait pour devenir des Mon Chapitre. J'ai beaucoup, beaucoup d'envie, évidemment, où je pense que ça aurait vraiment sa place. Je pense à Annecy, il y a Lyon, il y a Lille, Bordeaux, Nice aussi, ce serait une ville parfaite. En Belgique, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de Belges qui nous soutiennent et qui viennent nous voir. Paris, évidemment, on verra, mais pour l'instant, je suis à l'étape de la sélection.
Écoutons Léonie Boudreau, copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs de Sherbrooke.
Bonjour Léonie.
Bonjour René.
Qui n'aime pas les gâteaux?
Ben pas moi en tout cas. Moi j'adore les gâteaux.
Mais quel gâteau préférons-nous? Moi c'est évidemment, je vais très 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 être original, le gâteau au chocolat.
Classique gâteau au chocolat. J'aime bien le gâteau forêt noire moi aussi. Petit twist du gâteau au chocolat.
Il y a le gâteau au Péra aussi qui est pas mauvais. On va s'intéresser à un album jeunesse signé Caton chez Comme des Géants qui a pour titre « Un gâteau à quoi ?» Alors, de quel type de gâteau parlons-nous?
Ben, je vais te décevoir, René, en te disant que ce n'est pas un gâteau au chocolat.
Oh,
et mais c'est ça qui fait la beauté du livre, en fait, parce que c'est un petit tout carton, en fait, donc qui s'adresse aux plus jeunes. Et que ce qui rend ça drôle, c'est que c'est, en fait, les personnages de Mimose et Sam. Mimose, qui est un petit panda, et Sam, qui est une petite fille. Ils font des aventures. Il y a des bandes dessinées jeunesse qui sont sorties avec ces deux personnages-là. Donc, il y a des aventures en bande dessinée. Et là, ils ont décidé de sortir les mêmes personnages, mais qui font une aventure en tout carton, donc pour les plus jeunes. Et ici, ben, c'est Mimose et Sam qui font un gâteau. Et Sam commence son gâteau, Mimose veut l'aider et lui apporte des choses pour faire son gâteau, donc des œufs, de la farine, un oignon.
Pardon?
Ben, c'est ça, là. Mimose a des drôles d'idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un gâteau jusqu'à mettre un poisson rouge.
Ah non, non, non.
Ouais. Ben non, c'est ça, là. Okay. Ça donnera pas le meilleur gâteau. Et là, ben, Sam doit le recadrer un peu et dire, ben non, ça va pas dans un gâteau. Ça y va pas. Donc, un peu dans la formule de la patate à vélo. Ça se peut-tu, ça se peut pas. On est là-dedans dans... Qu'est-ce qui va dans un gâteau? Qu'est-ce qui n'est pas rapport? Donc, on y va avec les trucs les plus inusités. C'est le dessin qu'on aime de Caton, qui est très simple, très naïf. Puis, c'est des personnages que les jeunes vont pouvoir découvrir ici, puis ensuite redécouvrir dans leurs petites aventures en bande dessinée jeunesse. Donc, vraiment un beau flash que Comme des Géants a eu de venir s'adresser à un public un peu plus jeune. Moi, j'aime beaucoup, ça m'a fait beaucoup rire. Même si ça s'adresse, je pense, aux 1 an ou 2. Donc, voilà.
Mais ça finit par faire un gâteau, là.
Ben, il va falloir le lire pour le savoir.
Un gâteau à quoi? Signé Caton chez Comme des Géants. Merci beaucoup, Léonie.
Merci, René.
D'œil sur les nouveautés littéraires.
Brigitte Vaillancourt est de retour avec un roman intitulé « La séparation des biens ». Dans ce roman sensible et lumineux, Brigitte Vaillancourt propose une exploration de ce qui nous attache et de ce qui nous libère, des liens qu'on s'évertue à maintenir et de ceux qui se rompent, nous forçant à imaginer de nouvelles configurations. Écoutons Catherine Ostigui, éditrice chez Boréal.
Brigitte Vaillancourt nous avait offert un très beau roman, Droit vers le soleil, il y a de cela 3 ans. La séparation des biens est en quelque sorte la suite. Donc, dans Droit vers le soleil, on avait l'explosion du couple traditionnel, une femme qui voulait se défaire des carcans du couple et de la famille traditionnelle. Dans La séparation des biens, on examine un peu ce qui se passe après s'être défait de tous ces carcans? Qu'arrive-t-il? Comment nos choix de vie ont un impact, oui, émotionnel, mais aussi matériel sur notre existence? Donc, une femme séparée du père de ses enfants depuis quelques années change à maintenir un équilibre très fragile. Elle habite dans un condo d'un quartier qui se gentrifie à vue d'œil, un condo qu'elle occupe depuis 20 ans. Elle sent qu'elle n'a plus les moyens d'être attachée à ce lieu, et pourtant, c'est le seul port d'attache qui lui reste après avoir défait toutes ses autres attaches. Donc, elle y est extrêmement attachée. C'est un roman sur la précarité, tant financière qu'émotionnelle, sur le choix de vivre de son écriture aussi, parce qu'être célibataire et écrivaine, ça la soumet à toutes sortes de vulnérabilités qu'elle a du mal à défendre devant les gens de son entourage, devant les conseillers financiers qui lui disent qu'elle ferait mieux de se trouver un chum qui a de l'argent si elle veut continuer à avoir le train de vie qu'elle a. C'est un roman dans la plume de Brigitte habituelle, qui est lumineuse, qui est sensible, qui est sensorielle, où on explore vraiment tous les liens qui nous attachent, qui nous libèrent, ceux qu'on veut maintenir, mais ceux qui se rompent aussi. Un magnifique, magnifique roman de Brigitte Vaillancourt.
La petite librairie au coin de ma vie. La petite librairie vit encore aujourd'hui. Les rêves d'hier, les mots de lumière, la petite librairie reste dans mon cœur. Les années s'en vont, mais les pages demeurent. La petite librairie garde mes couleurs. La petite librairie au fond de ma mémoire.
Sur le libraire comme figure essentielle. Dans Le jeu de l'ange, l'auteur fait dire à un vieux libraire cette vérité poétique. Les livres avaient une âme, l'âme de celui qui les avait écrits et de ceux qui les avaient lus et avaient rêvé avec eux.
Et bien voilà que se termine cet épisode de votre émission littéraire La librairie Cocho. Je m'appelle René Cocho et j'ai la grande joie d'animer cette émission qui vise à mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chapitre de La librairie Cocho.
En dessous de ton visage, il t'a vu tout nu jusqu'au fond des yeux. Il t'a vu en dessous de ton image, il t'a vu tout nu jusqu'au fond du milieu. Jusqu'en dessous du paysage, la carte postale, les montagnes, le ciel bleu, jusqu'à l'endroit, jusqu'au message. Pas trop touriste, plus nomade, plus squatteux. Ce petit homme seul qui va son chemin, la tête baissée mais fier. Fier d'aller face au vent mauvais, fier d'aimer même en enfer. Fier de lui, fier de toi aussi. Pense à moi ton bagage, ce que t'as vu, ce que t'as su, ce que t'es capable de dire. Il veut pas savoir ton faisage, si tu ronnes, si tu sonnes, si t'es capable de sourire. Pour lui c'est plus le chantage, la mélodie, le son du respire, le son du fond, le grand voyage, celui qu'on n'a jamais fini. Bonhomme de rire.
bonhomme de rien, bonhomme qui voit clair. Barbouilleur de parchemin, chercheur de lumière. Ben oui, poète détingué. J'aimerais ça, ne rien voir, comme tout le monde, pas s'en faire, comme tout le monde, tout connaître, puis tout savoir, parler, sentir, puis regarder, sans voir. Il adore le monde, mais il est tout seul au monde, il mouille dans son désert. Ce petit homme seul qui va son chemin, la tête baissée mais fière, fière d'aller face au vent mauvais, fière d'aimer même en enfer, fière de lui, fière de toi aussi. Bonhomme de rue, bonhomme de rien, bonhomme qui voit clair. Barbouilleur de parchemin, chercheur de lumière.